Il est 19h21 sur France Inter.
France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, question sur le futur espace numérique qui va stocker vos données de santé sur le site de l'assurance maladie. Il a été baptisé Mon Espace Santé. Olivier Véran l'a présenté il y a quelques jours en parlant d'un événement comparable au lancement de la carte vitale il y a près de 25 ans. Les concepteurs de cet espace santé expliquent qu'il contiendra vos informations médicales, bilan, examen, compte rendu d'opération, allergie, etc., ce qui permettra aux médecins d'y avoir accès. Il permettra aussi d'échanger des informations entre patients et soignants. Les initiateurs du projet affirment que cela se fera de manière sécurisée. Cet espace numérique sera créé automatiquement pour chaque assuré d'ici fin mai. Vous aurez la possibilité de vous y opposer pendant 6 semaines, mais si vous ne le faites pas, les données resteront archivées pendant 10 ans. Autant dire que tout cela mérite quelques explications, aussi bien au niveau du fonctionnement du service que de sa sécurité et du matériel nécessaire pour se connecter. Alors si vous avez des questions, profitez-en, c'est le moment ou jamais. Nos invités sont là pour vous répondre. Ils sont 3 dans ce studio. Laura Letourneau, bonsoir.
Bonsoir.
Délégué ministériel au numérique en santé. Arthur Dauphin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous faites partie de France Asso Santé, où vous êtes chargé de mission numérique France Asso Santé, fédération d'associations d'usagers de la santé. Nous sommes également en ligne avec le docteur Jacques Battistoni. Bonsoir.
Bonsoir.
Médecin généraliste à Caen, président du syndicat MG France. Alors n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, nous partons à Nantes retrouver Marilyn. Bonsoir et bienvenue sur l'antenne de France Inter, Marilyn.
Bonsoir.
Est-ce que vous avez une question à poser à nos invités ?
J'ai plusieurs questions. La première, j'ai créé mon compte DMP donc il y a plusieurs années. Est-ce qu'il va y avoir une bascule automatiquement de mon DMP sur ce nouvel espace ? Quelle maîtrise je pourrais avoir de cet espace ? Sachant qu'aujourd'hui sur mon DMP, c'est moi qui mets les informations dessus, donc je la maîtrisais complètement. Et quid de la protection de ces données, puisque ce sont quand même des données sensibles. Et sans oublier les personnes qui sont dans la fracture numérique. Comment eux pourront-ils gérer ces informations ?
Eh ben dites-moi, voilà, Marilyn, beaucoup de questions. Mais puisque je vous tiens et que vous avez créé votre DMP, dossier médical partagé, j'ai envie de vous demander d'abord pourquoi vous l'avez créé et à quoi il vous a servi ?
Alors moi, j'ai mis dessus des résultats d'analyse que j'avais eu. Donc je les ai mis dessus. Et je trouvais que pour certains praticiens, ça pouvait être utile d'accéder à ces résultats d'analyse. Par contre, je ne comprenais pas pourquoi, selon les médecins, certains me disaient qu'ils y avaient accès, d'autres pas. Donc ça, je n'avais pas d'explication pourquoi ils avaient accès ou pas à ces données.
Donc c'était pas tout à fait probant pour vous ?
Ben c'est probant dans le sens où moi je pouvais mettre les informations que je décidais de mettre. Par contre, si tous les médecins ou professionnels de santé n'y avaient pas accès, c'était la limite que je pouvais y constater.
Donc a priori, si on vous donne ce soir des garanties concernant la sécurité du nouveau dispositif, vous serez partante, Marilyn ?
Mais je veux, comme vous le dites, des garanties, comme on voit comment les systèmes informatiques, même les plus sophistiqués, peuvent être piratés. C'est quand même des données sensibles et des données personnelles, donc ce serait quand même grave que ça passe dans des mains malveillantes.
Merci beaucoup Marilyn pour à la fois ces informations et toutes ces questions que vous nous avez posées. On va y répondre, on va les prendre peut-être dans l'ordre. Et moi j'ai envie avant tout de demander à Laura Letourneau, qui est déléguée ministérielle au numérique en santé, ce qui s'est passé avec ce DMP, dossier médical partagé. Il a été testé dans un certain nombre de départements, dont la Loire-Atlantique, sans doute la raison pour laquelle Marilyn l'a testé.
Alors, je pense que Marilyn, elle a testé son DMP bien avant, puisque le DMP, c'est un serpent de mer, hein, qui date de 2004.
C'est une vieille histoire.
Là, c'est une vieille histoire. Mon espace santé, en revanche, donc le nouveau carnet de santé numérique des Français, a été testé dans 3 départements pilotes en fin d'année dernière. Mon espace santé, tout le monde peut regarder d'ores et déjà à quoi ça ressemble, hein, pas que dans les 3 départements pilotes, dans toute la France. En allant activer son compte sur Mon Espace Santé, il suffit de se munir de sa carte vitale, ça prend 5 minutes.
Alors quand vous dites aller sur Mon Espace Santé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller sur amélie.fr, sur le site internet de la Sécurité Sociale ?
Non, alors sur Mon Espace Santé.fr,
c'est autre chose.
C'est Mon Espace Santé.fr, vous pouvez y aller, il suffit de vous munir de votre carte vitale, ça prend 5 minutes. Les remontées terrain montrent que ça pose pas de difficultés particulières, mais si néanmoins vous en rencontrez, vous pouvez toujours appeler le 34 22 et vous faire épauler en présentiel par un réseau d'accompagnants numériques. Ce que vous retrouvez dans Mon Espace Santé, c'est deux grandes fonctionnalités. La première, c'est le dossier médical qui est construit sur l'ancien DMP, dossier médical partagé dont il était question. Son ergonomie a été complètement refondue, il a été remis à l'état de l'art technologique et il contient...
J'ai pas tout compris là. Qu'est-ce qu'on trouve exactement ?
Alors, on trouve la première grande brique, qui est le dossier médical.
La première grande
brique fonctionnelle, la première grande fonctionnalité de Mon Espace Santé, c'est un dossier médical. Et la deuxième, j'y reviendrai, c'est une messagerie sécurisée. Dans la première, si vous aviez un DMP précédemment, les documents qui étaient déjà dans le DMP, que vous y aviez ajouté vous ou que vos professionnels de santé avaient ajouté, vous les y retrouverez. Ils ont été conservés lors du passage du DMP à Mon Espace Santé. Ces documents, c'est quoi ? C'est votre compte-rendu de biologie, de radiologie, d'hospitalisation, votre ordonnance, tous les documents médicaux clés, votre carnet de vaccination, votre historique de remboursement et les éléments qui constituent ce qu'on appelle votre profil médical. Donc vos allergies, vos antécédents familiaux.
Donc ça, on peut le faire soi-même.
Etc. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur monespacesanté.fr, activer votre espace, retrouver votre dossier médical avec les documents que j'ai mentionnés et une messagerie sécurisée qui vous permet d'écrire à votre médecin, votre kiné, votre pharmacien, autrement que par WhatsApp et par Gmail, comme on le fait encore beaucoup aujourd'hui. C'est quand même fou qu'on écrive à notre banquier avec une messagerie sécurisée, mais à notre pharmacien, on envoie une prescription via des serveurs qui transitent en Californie. Et ça, c'est une nouveauté par rapport au dossier médical partagé.
Alors, on va évidemment revenir sur cette sécurité dans un instant. Arthur Dauphin de France Asso Santé, où vous vous occupez, je le rappelle, de la mission numérique. Comment voyez-vous les choses ? L'idée de lancer ce nouvel espace numérique par rapport à l'expérience du dossier médical partagé. Comment vous percevez ça, vous, du côté des associations de patients ?
Alors, du côté des associations de patients et des représentants d'usagers, c'est une bonne chose pour nous que Mon Espace Santé arrive. Déjà, on se souvient à l'époque, quand la carte vitale est arrivée, on nous annonçait que c'était l'outil qui allait nous rendre enfin acteurs de notre parcours. Bon, c'était pas forcément le cas, ça a été utile. On a dit pareil pour le dossier médical partagé, qui a fait pchit, bon, comme on le sait. Et aujourd'hui, Mon Espace Santé arrive, donc on a toujours les mêmes attentes, il y a des fortes attentes du côté des usagers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les acteurs du système de santé sont quand même plus en cohésion aujourd'hui pour faire de ce service une réussite. Et donc, on espère bien qu'aujourd'hui, nos attentes vont enfin être récompensées, on va dire, et qu'on va pouvoir y arriver tous ensemble.
Pourquoi il a fait pchit, le dossier médical partagé ?
Alors, si on prend la perspective des usagers, nous, on les interroge, et puis de toute façon, on a eu beaucoup de retours. Il y a d'un côté le fait que le dossier médical partagé, c'était l'usager qui devait aller l'ouvrir. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas ouvert, ce qui fait que le déploiement n'a pas été aussi optimal qu'on l'aurait souhaité. Et il y a aussi beaucoup d'attentes de la part des usagers vers les médecins, vers les professionnels de santé, qui n'ont pas forcément mis les documents. Marilyn le disait, c'est elle-même qui mettait ces documents toute seule. Mais c'est vrai que l'idée du dossier médical partagé, à l'origine, c'était que les professionnels de santé y mettent eux-mêmes les documents. Et c'est vrai que ça a manqué. Et ce qui fait qu'un document, un dossier qui est vide, eh ben, il n'est pas utilisé et il n'est pas diffusé.
Alors, on va se tourner vers Jacques Battistoni, qui est médecin généraliste à Caen. Docteur Battistoni, le dossier médical partagé, est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé et que disent aussi vos confrères praticiens ?
Oui, nous l'avons très peu utilisé, hein, comme vient de le dire votre intervenant de France Asso Santé. On l'a peu utilisé parce qu'en fait, on a mal conçu, je crois, au départ, le dossier médical partagé. On a cru que ça pouvait être un outil qui allait remplacer notre dossier médical qu'on utilise tous les jours pour suivre nos patients. En fait, c'est pas le cas. On a cru que ça allait être un outil d'échange entre les professionnels de santé. Ça n'est pas non plus forcément le cas. Je crois qu'enfin, on remet les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire c'est un outil pour le patient, pour lui permettre de stocker des informations, pour les mettre à disposition, mais ce n'est pas l'outil des professionnels de santé pour travailler entre eux.
Mais est-ce que pour vous, ça peut, effectivement, c'est ce que vous laissez entendre, avoir une véritable utilité ?
Alors, l'utilité, pour nous, elle n'est pas, c'est pas notre outil de travail de tous les jours, ça il faut bien le comprendre. Contrairement à ce qu'on avait laissé entendre au départ. C'est pas à partir du dossier médical partagé qu'on va suivre l'état de santé de nos patients. C'est pas ça qui va nous permettre de retrouver les notes qu'on prend tous les jours quand on reçoit un patient. Par contre, de temps en temps, ça va permettre d'aller chercher des éléments qu'on n'a pas dans le dossier parce que c'est un nouveau patient, parce qu'on le connaît pas ou parce qu'il vient d'arriver dans la région et qu'on a besoin de constituer rapidement son dossier.
Et ça peut permettre aussi à un autre confrère chez qui le patient va se rendre d'avoir les informations, ou s'il y a une hospitalisation, c'est ça, docteur Battistoni?
Oui, tout à fait, bien sûr. Si vous avez un patient qui arrive à l'hôpital, vous allez pouvoir retrouver facilement, surtout s'il est inconscient, qu'il ne peut pas parler, de tas d'éléments concernant son état de santé. Et je crois que ça changera très vite.
Et est-ce que vous pourriez me dire, docteur Battistoni, un petit peu comment ça s'est passé dans les départements où mon espace santé a été testé je ne sais pas si c'est au cours de l'année dernière, des dernières années. Comment ça s'est passé d'après les retours que vous en avez eus, vous?
Oui, alors les retours que j'ai eus, moi, avec des collègues qui travaillent, moi je suis pas dans un des trois départements qui a été concerné, mais les retours des collègues, c'est qu'on a surtout testé les modes de relation, on a testé surtout les outils techniques et qu'on n'a pas testé grandeur réelle. Et donc, pour certains d'entre eux, ils n'ont pas vu véritablement de différence par rapport à ce qui existera probablement demain, quand tout le monde disposera de l'outil, quand tout le monde aura pris l'habitude de l'utiliser.
Merci beaucoup, docteur Battistoni. On va vous retrouver dans quelques instants. On va d'abord prendre Jeanne, qui est au bout du fil, qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Jeanne.
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue.
Alors, moi, je veux très très brièvement, j'ai 69 ans. J'ai, par chance, une bonne santé. Je n'ai pas de grosses pathologies. Je ne vois pas pourquoi mon dentiste aurait besoin de savoir si j'ai des cordes aux pieds. Donc, en général, c'est moi qui gère ma vie. Si je veux communiquer une information d'un médecin à un autre, je le fais. Mon généraliste a la connaissance de tous mes examens de santé. Sur moi, dans mes papiers, il y a aussi les informations importantes, les ordonnances, les personnes à prévenir. J'estime que pour l'instant, ça me suffit. Donc, je voudrais savoir comment je peux faire pour m'opposer à ce truc, à ce dossier médical partagé. Et si je suis lucide, si un jour j'ai une grosse maladie qui risque d'être plus problématique, est-ce que mon opposition est réversible? Voilà. Donc je voudrais très, très méthodiquement savoir comment faire pour m'opposer et si c'est réversible, et également comment faire les modalités pour revenir sur ma décision.
Merci beaucoup, Jeanne, pour ces deux questions qui sont très simples. Laura Letourneau, je voulais soumettre. Est-ce que d'abord, Jeanne va pouvoir s'opposer à la mise en place de son espace santé?
Alors, pour revenir effectivement sur le mécanisme d'opt-out, comment ça fonctionne? Vous pouvez
d'abord... Ça veut dire quoi, pardon?
Alors, c'est le mécanisme justement que je vais expliquer. D'ici à la mi-mars, entre fin janvier et mi-mars, tous les Français vont recevoir un courrier avec un code d'activation qui leur permettra ou bien d'activer mon espace santé en allant sur le site internet, en se munissant de la carte vitale et en remplissant ce code, ou bien de s'y opposer de la même façon en se munissant de la carte vitale et du code, ou d'appeler le numéro de téléphone support s'ils n'y arrivent pas en ligne.
Donc on va recevoir, si on est assuré social, un courrier, a priori, par la poste, première chose, ou éventuellement un mail, c'est ce que vous nous dites?
Un email, si l'assurance maladie n'a pas dans ses bases votre email, ça sera un courrier. Si vous n'avez pas fait d'action proactive pendant 6 semaines, le dossier sera ouvert, vous serez informé ensuite de cette ouverture, vous serez notifié à chaque fois qu'un nouveau document y est mis dedans par votre hôpital, votre médecin traitant, etc. Et à tout moment, même après les 6 semaines, hein, contrairement à ce qui était dit en introduction, vous pourrez revenir sur votre décision. Que ce soit pour vous y opposer, même dans 5 ans, et pour fermer votre espace, les données, vous pourrez les supprimer.
Il n'y aura pas de délai. Alors je ne sais pas d'où sort cette information des 6 semaines.
C'est vraiment important de le mentionner. Au bout de 6 semaines, si vous n'avez pas proactivement activé votre espace, il sera ouvert. Si vous ne vous y êtes pas opposé. En revanche, à tout moment, 6 mois après, 2 ans après, 10 ans après, vous pourrez fermer votre espace et supprimer toutes les données qui y sont dedans. Les données seront archivées 10 ans, comme vous le mentionnez en introduction, si vous ne décidez pas de les supprimer. Parce que demain, si vous voulez réactiver votre dossier, ben, les données seront encore présentes, vous pourrez les y retrouver. Mais aussi pour des raisons de... Si vous avez besoin de faire des recours en justice, par exemple, eh bien, c'est utile de pouvoir avoir cet archivage de 10 ans, qui est un archivage très classique dans la santé.
Et si on veut faire la démarche inverse que nous disait Jeanne, ne pas l'activer dans un premier temps, et puis si un jour, disait-elle, elle est gravement malade ou qu'elle éprouve le besoin d'avoir avoir recours à cet espace santé, ce sera possible de le faire. On peut revenir en arrière dans ce
Exactement.
Sens-là aussi.
Si vous vous y opposez maintenant, il sera pas ouvert. Mais si vous vous dites mince, si j'avais décompensé dans la rue, j'aurais bien aimé qu'aux urgences ils puissent savoir que je suis allergique aux corticoïdes par exemple, ou mince, j'aurais bien aimé recevoir automatiquement mon compte rendu d'IRM dans mon espace santé au lieu d'avoir qu'en papier, d'avoir à l'enregistrer moi-même sur Google Drive. Si vous avez ces remords-là, vous pouvez à tout moment décider de l'activer si jamais vous vous y étiez opposé précédemment. Ça, c'est le premier point sur ce qu'on appelle l'opt-out, l'ouverture automatique, sauf opposition. Mais évidemment, il est possible de s'opposer à cet espace à tout moment. C'était un engagement fort du gouvernement et de l'assurance maladie. On ne le recommande pas parce qu'on pense que ce sera des pertes de change derrière. Mais néanmoins, les personnes peuvent le faire et peuvent le faire très facilement. Sur le sujet de l'accès des données de santé qui sont dans ce dossier médical, la première chose à dire, qui est vraiment extrêmement importante, c'est que ni l'État, ni l'assurance maladie, ni les assurances, ni les mutuelles, ni les employeurs ne peuvent avoir accès aux données de santé dans l'espace santé. C'est impossible juridiquement, c'est impossible techniquement. Seul vous-même, en tant que titulaire du compte, votre représentant légal, si vous êtes un enfant par exemple, et les professionnels de santé de votre choix, peuvent accéder à votre dossier médical, mais avec votre accord.
C'est-à-dire, je crée mon espace santé et je note d'office, d'emblée, en le créant, docteur machin, qui est mon généraliste, va pouvoir y avoir accès. Je mets la liste, c'est à ce moment-là que ça se passe ou pas forcément ?
Ça se passe pas comme ça. C'est le professionnel de santé, avant de consulter votre dossier, parce qu'il a besoin de regarder votre compte-rendu de biologie, par exemple, avant de vous recevoir en consultation pour pouvoir faire un diagnostic qu'il aura prémédiqué avant. Ils doivent vous demander votre accord, et si vous en êtes d'accord, il peut accéder au dossier. Ce qui est important de savoir, et aussi pour répondre à la remarque de l'auditrice, c'est que les professionnels de santé ne peuvent accéder qu'aux données qui sont légitimes au vu de leur spécialité. Par exemple, un dentiste ne pourra pas avoir accès techniquement au compte-rendu d'accouchement de la personne. C'est régi par ce qu'on appelle une matrice d'habilitation qui est publique, qui définit spécialité médicale par spécialité médicale les documents qui sont légitimes pour que l'accès soit proportionnel à l'usage qui en sera fait.
Donc comme disait Jeanne, le dentiste, il n'a pas accès au corps aux pieds.
Exactement. Hein ? Deuxièmement, en surcouche de cette matrice, vous pouvez vous-même choisir de masquer tous les documents que vous souhaitez pour qu'ils soient accessibles qu'à vous et qu'à aucun autre professionnel de santé. Si vous jugez que la matrice n'est pas suffisamment protectrice, elle a été concertée pendant des années avec les associations de patients, avec les professionnels de santé, vous pouvez en surcouche vous-même masquer les documents. Troisièmement...
Mais vous vous rendez compte un petit peu que tout le monde n'est pas expert, spécialiste pour cacher des choses, etc. Ça va être quand même assez compliqué. Je vais vous repasser la parole, Laura Letourneau, mais Arthur Dauphin, vous qui représentez les patients, alors vous êtes jeune, vous avez l'habitude de l'informatique, mais ça va pas être aussi simple.
C'est vrai qu'il y a une vraie question de savoir comment les usagers, tous globalement, hein, à tous les âges, vont pouvoir s'approprier cet outil et en maîtriser effectivement, alors je vais pas dire ses subtilités, mais effectivement les paramètres qui vont permettre, comme sur d'autres applications, de santé ou pas d'ailleurs, de gérer tout ça. Donc il y a un vrai enjeu. La plateforme Mon Espace Santé, elle a du coup été testée dans ces départements et on a une grande vigilance à avoir sur les usages qui vont en être faits. Et en tout cas, c'est une plateforme qui est déjà un peu plus lisible qu'à l'époque du dossier médical partagé, notamment pour tous les documents que moi-même, en tant qu'usager, je peux y mettre. Donc, il y a plein de signaux positifs quand même. Et même pour une personne qui n'est pas un patient chronique avec des grosses maladies et un parcours complexe, il y a des services intéressants dans Mon Espace Santé, y compris pour Jeanne. Rien que le fait, comme le disait Laura Letourneau, d'avoir une messagerie sécurisée de santé, c'est quelque chose de très nouveau et qui est vraiment très intéressant pour sécuriser justement ces échanges et ces données.
Vous, par exemple, vous conseillez à tout un chacun de communiquer plutôt via cette messagerie que via Gmail ou les autres adresses mail, c'est ça ?
C'est une évidence qu'aujourd'hui, les WhatsApp, Google Mail, etc. ne sont pas des services sécurisés qui sont adaptés pour faire transiter des données de santé. Et c'est vrai que la crise sanitaire, avec l'explosion des usages de la téléconsultation, etc., a fait qu'il y a eu des débordements parfois. Et c'est vrai qu'il est temps qu'on fasse confiance aussi. C'est une bonne chose que la puissance publique aujourd'hui nous propose cet outil, mine de rien, et qu'on ne fasse pas uniquement confiance à des acteurs privés. Et donc, cette messagerie de sécurisée, par exemple, c'est vraiment une opportunité vraiment inédite et qu'on attend beaucoup aussi dans le déploiement de Mon Espace Santé.
Docteur Battistoni, vous vouliez intervenir sur ce sujet ?
Oui, je crois qu'on a tendance à réduire l'espace numérique Mon Espace Santé au dossier médical partagé. En pratique, je crois que nous attendons beaucoup les uns les autres, les patients, mais aussi leurs professionnels de santé, de la messagerie sécurisée. Comme on le disait à l'instant, avec la crise sanitaire, on a beaucoup communiqué par mail, voire par SMS de temps en temps, enfin surtout par mail, avec nos patients, parce qu'ils avaient des besoins, ils n'avaient pas envie de venir en consultation et d'attraper le Covid, et donc ils nous demandaient beaucoup de choses, à la fois ça pouvait être des ordonnances de dépannage, mais c'était aussi des conseils, ça pouvait être des vraies prises de décision sur qu'est-ce qu'ils devaient faire. On leur a prescrit de temps en temps des examens complémentaires, on a échangé avec eux, et tout ça d'une façon qui n'est pas acceptable aujourd'hui. Comme on le disait tout à l'heure, on communique de façon sécurisée avec son banquier, on doit pouvoir le faire avec son médecin, c'est tout à fait normal. Et donc on a ainsi quelque chose qui va se développer à côté de la téléconsultation et de la consultation, un nouvel espace pour dialoguer avec nos patients à l'initiative du médecin et du professionnel, mais qui permet de faire l'équivalent, peut-être même de temps en temps, d'une consultation par voie numérique. C'est très important, il va falloir regarder ça de très près parce que ça peut prendre du temps. D'ores et déjà, on a l'habitude de communiquer beaucoup avec nos patients par mail, ça va sans doute être en plus encore avec ce nouveau moyen.
Vous êtes d'accord avec ce que disait Arthur Dauphin à l'instant, c'est important que ce soit la puissance publique qui mette ça en place plutôt que des acteurs privés.
Ah oui, on sait que, comme on le disait tout à l'heure, hein, les mails transitent parfois par la Californie, et dans ces mails, il peut y avoir des informations extrêmement sensibles. Il m'est arrivé très régulièrement d'envoyer des ordonnances, des prescriptions par messagerie standard, et franchement, je l'ai fait parce que c'était utile pour la santé de mes patients, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de continuer. Je crois qu'il faut sécuriser nos échanges.
Alors, on va évidemment parler de la sécurité, parce que c'est ce qui revient dans les messages qui nous arrive sur franceinter.fr et sur ce que nous ont dit les auditrices là qui se sont succédées depuis le début de ce téléphone sonne. Mais on va d'abord retrouver Jean-Louis qui est au Mans. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir. Alors pendant que vous expliquez comment en faire pour créer son espace santé, évidemment j'ai essayé.
Bravo.
Mais
j'ai un téléphone petit sonne en direct.
J'ai un petit problème parce que on nous demande le numéro qui est au verso à gauche en haut, et moi j'ai un numéro parce que ma carte vitale date de novembre 98. Et c'est formidable, on a fait quand même une carte à puce pour la santé il y a 23 ans. Et aujourd'hui, on parle seulement d'un dossier médical informatisé. C'est extraordinaire. Bon, et donc je n'ai pas pu.
Donc vous cassez le nez, c'est ça ?
Oui, oui, j'essaierai demain parce que ce code qu'on me demande là,
attendez, on a du monde pour vous aider là ce soir. On a Laura Letourneau. Pouvoir vous guider un petit peu, Laura Letourneau.
Alors effectivement, le principal, en tout cas, problème qu'on a à l'activation des comptes, mais c'est relativement rare, donc vous êtes mal tombé. C'est ce numéro qui est lisible, qui s'est effacé sur les cartes vitales les plus anciennes. Et donc dans ce cas, il faut que vous appeliez le numéro du support, le 3422, qui pourra activer votre compte malgré cette illisibilité.
Oui, c'est ce que j'ai vu. Ok. Moi, ma question, c'était, est-ce que tous les acteurs vont vraiment jouer le jeu ? Est-ce qu'ils vont, les libéraux comme les publics, hein, les hôpitaux, etc., et est-ce qu'ils y seront contraints ? Parce que quand même, les professionnels de santé, ils ont été très réticents sur... Alors, tout le monde a des responsabilités hein, dans le fait que les choses n'ont pas progressé. Moi, j'ai été administrateur de ma caisse primaire il y a 20 ans, hein, et donc, il y avait des torts partagés sur les évolutions du monde de la santé, du côté du corps médical, comme du côté des grands sachants de l'assurance maladie. Mais enfin, maintenant, il serait peut-être temps quand même, en 2022... d'informatiser les dossiers de santé, parce que ça peut être utile et ça peut générer des économies. Il faut pas non plus l'oublier. Les doubles examens, etc., ça, tout ça pourrait générer des choses tout à fait bénéfiques.
Merci beaucoup Jean-Louis pour cette question. Est-ce que tous les acteurs vont vraiment jouer le jeu ? Mais je vais poser la question à Jacques Battistoni, président du syndicat MG France, qui est en direct de Caen.
Oui, la réponse est clairement oui. D'abord parce que on va mettre en place très vite, c'est prévu dans le déploiement de l'espace de santé, quelque chose qui va alimenter directement le dossier partagé. En fait, à chaque fois qu'un examen va être produit par n'importe quel acteur de soins, ça peut être le biologiste quand il va vous faire une analyse de sang, ça peut être le radiologue, ça peut être un compte rendu de consultation à l'hôpital ou chez un spécialiste de ville, automatiquement ce compte rendu va aller par messagerie sécurisé vers le professionnel qui a demandé l'examen, mais en même temps, il va aller vers le dossier partagé. Et donc, votre dossier il va se constituer au fil de l'eau, au fur et à mesure. Alors après, vous allez dire, mais comment je vais me retrouver dans tout ça? Et le médecin généraliste va être incité, en commençant par les patients qui sont les plus, qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les patients qui ont une pathologie chronique, qu'on appelle une affection de longue durée. Ces médecins vont être incités, dans le courant de l'année qui vient, à mettre une partie de synthèse du dossier de leurs patients dans le DMP. Et ainsi, vous aurez à la fois les examens au fil de l'eau, tous les examens, ça va être beaucoup, et en même temps une synthèse annuelle qui reprendra les éléments importants à savoir, par exemple que vous avez une insuffisance coronarienne ou une insuffisance rénale, enfin des choses vraiment importantes comme ça.
Merci beaucoup docteur Battistoni. Laura Letourneau, vous souhaitiez intervenir suite peut-être à l'intervention de notre auditeur.
Exactement, et puis suite à ce que disait Jacques Battistoni également, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon espace santé, en réalité, c'est vraiment la partie visible, la partie émergée de l'iceberg pour le citoyen, mais que derrière, depuis 3 ans, tout l'écosystème, les professionnels de santé, leurs éditeurs de logiciels, les hôpitaux, les associations de patients, les pouvoirs publics, s'agitent pour faire les 12 travaux d'Hercule et faire en sorte de raccorder mon espace santé à tous les logiciels, des kinés, des pharmaciens, des hôpitaux, des EHPAD, des dentistes, etc. Donc comment ça fonctionne exactement? Il y a un programme inédit qui s'appelle le Ségur numérique, c'est 2 milliards d'euros financés par la Commission européenne, qui nous permet de mettre en œuvre des leviers qui sont innovants. On s'est inspiré de leviers qu'on avait mis en place dans SIDEP, le système d'information de dépistage qui vous envoie votre résultat de test Covid, où on a réussi à connecter de façon exhaustive, automatique et temps réel les 4500 laboratoires de biologie médicale en 3 semaines, là où précédemment on n'arrivait pas à le faire depuis 8 ans sur la dengue ou le chikungunya. C'est quoi ces leviers? Le premier levier, c'est exactement ce que disait Jacques Battistoni, c'est une mise à jour logicielle de tous les professionnels de santé pour qu'ils puissent envoyer automatiquement, donc sans aucune double saisie, en zéro clic, comme on dit, sans aucun effort, pour pas perdre de temps médical, sans aucun effort, les documents dans le dossier médical. Donc là, je passe aussi un appel aux professionnels de santé. Ils ont jusqu'au 15 juillet pour commander cette mise à jour logicielle gratuite auprès de l'éditeur de leur choix.
Voilà, donc le monde médical, a priori, a été informé, sera équipé, aura tout ce qu'il faut. Mais moi, j'ai quand même envie de vous soumettre, peut-être à vous, à Arthur Dauphin, ce que nous dit Jean-Jacques sur franceinter.fr. Moi, je suis d'une génération peu agile en informatique, malgré ce mail, il précise quand même entre parenthèses, voilà. Et pour moi, c'est un souci de tout voir partir sur Internet. Ça peut se comprendre.
Ça peut se comprendre tout à fait. Et
parce que qu'est-ce qu'il va falloir avoir dans un premier temps? Un ordinateur, c'est ça?
Un ordinateur ou par téléphone. Alors l'application mobile Mon Espace Santé est en cours de développement, il me semble, mais je serai peut-être que Laura pourra répondre aussi par rapport à ça. C'était aussi comme pour le dossier médical partagé, accessible en ligne via le site internet ou via une application. Ce qu'il faut pas oublier, c'est sûr que c'est un outil qui est ouvert de manière automatique, mais qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que, et c'est très important pour nous effectivement, que chaque usager de la santé ait le choix d'accepter ou pas d'utiliser cet outil, parce qu'effectivement, on préfère son dossier papier avec les risques qu'il y a aussi, les risques de perdre des documents, le risque que c'est plus difficile aussi que tous ces professionnels de santé aient les bonnes informations au bon moment, ou d'accepter du coup d'utiliser cet outil informatique qui a des bénéfices. Et il faut comprendre qu'il y a des usagers qui ont des inquiétudes, qui ont des craintes, qui ont peur de pas l'utiliser correctement.
Alors justement, on a Marie qui nous appelle de Grenoble et je crois que c'est pour parler de ça. Bonsoir Marie.
Bonsoir Madame Servageon.
Bienvenue sur l'antenne de France Inter. Alors vous avez un petit peu peur, vous, de ce qui va se passer?
Je n'ai pas peur, je suis pas très douée, mais c'est pas que j'ai peur, c'est que je n'ai pas d'ordinateur. J'ai un ordinateur actuellement qui est en panne depuis plusieurs mois, j'ai pas les moyens financiers de le faire réparer. Et j'ai un téléphone, mais qui n'est pas extraordinaire. Donc voilà, je me dis comment on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a un lieu? Est-ce qu'à la sécu, on peut faire ça? Enfin, voilà.
Merci beaucoup pour cette question, Marie. Laura Letourneau, comment ça se passe quand on n'a pas d'ordinateur?
Une de nos convictions, et depuis le début de la feuille de route, c'est qu'on aura beau faire l'outil le plus ergonomique possible, raccorder tous les logiciels du terrain pour faire en sorte qu'ils alimentent automatiquement le dossier médical. Un des facteurs clés du succès de mon espace santé, ce sera d'accompagner les citoyens, notamment les plus éloignés du numérique, à l'usage de cet outil, pour qu'ils retrouvent leurs données, pour qu'ils puissent en masquer certaines
s'ils le souhaitent, etc. Comment on fait? Comment elle fait, Marie?
Comment est-ce qu'on fait concrètement? Si on n'a pas d'ordinateur, on se retourne vers le centre d'action sociale le plus proche dans sa région. Si on a un ordinateur et qu'on a besoin d'un accompagnement, il y a des partenariats inédits qui sont en cours de développement avec tous les acteurs de la médiation numérique. Donc il y a d'abord les près de 4000 agents des caisses primaires d'assurance maladie qui sont à votre disposition pour vous expliquer comment ça fonctionne et vous flécher et vous former à des ateliers dédiés à Mon Espace Santé. En plus de ça, on est en train de former tous les médiateurs numériques qui existent, les conseillers numériques France Service, les aidants du réseau Aidant Connect, et puis d'autres médiateurs de tout horizon, de la MedNum, des hubs numériques, des associations. Les associations de patients également ont un rôle clé à jouer là-dedans et elles le jouent. On les forme à Mon Espace Santé pour qu'elles-mêmes elles puissent aller ensuite dans les entreprises, dans les EHPAD, dans les universités, à l'accueil des urgences par exemple, quand les gens attendent dans les hôpitaux, pour montrer aux gens Mon Espace Santé, comment est-ce qu'ils peuvent s'en saisir et comment est-ce qu'ils peuvent utiliser toutes les fonctionnalités. C'est quelque chose qu'on a testé dans les 3 départements pilotes, hein, en plus de tester techniquement l'outil, comme c'était mentionné, c'était un vrai enjeu, hein, le mécanisme d'opt-out notamment, et puis la messagerie sécurisée, c'est la première fois qu'on lançait ça. Il y a eu aussi tout ce test-là d'accompagnement des usagers à l'utilisation de Mon Espace
Parce
Santé.
Parce que vous imaginez, déjà il y a l'ordinateur, et puis s'il faut mettre un document, il faut le scanner, il faut avoir en plus du matériel, ça va se faire aussi sur une application sur téléphone ?
Ça va se faire, la feuille de route de Mon Espace Santé est publique, et elle indique qu'une application mobile sera disponible fin mars, début avril. Il est déjà possible d'utiliser Mon Espace Santé sur son téléphone, hein, puisque le site web est responsif, donc on peut d'ores et déjà l'utiliser, ça fonctionne très bien sur son téléphone, et donc non pas scanner de documents, mais le prendre en photo, en un clic, le classer, dire est-ce que c'est un compte-rendu de biologie, un compte-rendu de radiologie, un compte-rendu d'hospitalisation, et faire en sorte derrière de pas le perdre nous déjà, et d'y donner accès aux professionnels de santé qui en auraient besoin.
En tout cas, Arthur Dauphin, c'est une vraie question. Cet accès à l'ordinateur pour pouvoir mettre les éléments.
Cet accès effectivement à l'ordinateur, alors c'est toute la question des zones blanches aussi, des personnes qui n'ont pas accès correctement au réseau. Il y a des questions de matériel. C'est vrai que Mon Espace Santé ne va pas répondre à ces problématiques comme elle ne va pas répondre aux déserts médicaux ou à d'autres questions aussi d'accès aux soins. Donc c'est
le,
un outil
le grand problème de l'accès aux services publics, la dématérialisation de tout le service public. Et c'est une vraie question. Hein. Ça, c'est pas un détail.
Non.
Plus, ça concerne la santé.
C'est une vraie question. Le Défenseur des droits avait fait un très beau rapport en 2019.
Je vous signale qu'il y en a un la semaine prochaine et qu'on va en parler la semaine prochaine. Voilà, ça, c'est le nouveau rapport qui va arriver.
Mais c'est vrai que ce réseau de la médiation numérique, alors quand on parle des médiateurs numériques, c'est toutes ces personnes qui accompagnent au numérique à utiliser ne serait-ce que la souris, le clavier, ou plus loin, de dire, bah voilà, sur tel site, sur telle démarche publique, ou sur Mon Espace Santé, du coup, demain, on aide des gens au quotidien. Et s'il y a déjà des professionnels qui existent sur le terrain, et il faut vraiment qu'on les fasse rentrer dans tout l'écosystème du système de soins, comme en fait les autres professionnels et comme les représentants d'usagers. Donc, il y a des vraies attentes aussi de nos côtés pour qu'on fasse se rencontrer les usagers avec ces réseaux-là.
Petite question à ce stade, René Luc, qui est non-voyant, nous demande est-ce que le site sera accessible justement aux non-voyants, Laura Letourneau ?
Effectivement, le site sera ce qu'on appelle RG2A et donc accessible y compris aux personnes handicapées. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez précédemment, on lance pas un énième service public en ligne sans accompagnement. Hein. C'est quelque chose dans lequel on croit profondément. On recrute même des nouvelles personnes en plus de tous les réseaux existants pour faire en sorte que tous les gens qui en aient besoin soient réellement accompagnés.
Annabelle est en Haute-Garonne. Bonsoir Annabelle.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir patienté.
Je vous en prie. Ben moi, je suis une patiente sans médecin. Donc, je rêve absolument de ce dossier, puisque moi, je vis dans un désert médical absolu. Et par contre, j'ai une pathologie qui nécessite un renouvellement d'ordonnance tous les 6 mois. Et donc, je vais dans une maison de santé. Et il faut que je re-raconte à chaque fois mon histoire à un médecin qui n'est pas mon médecin référent, puisque je n'ai pas de médecin référent. Voilà, c'était un petit témoignage pour vous dire combien je l'attends avec impatience. Mais par contre, je suis inquiète, puisque moi, je fais partie du régime de sécu sociale des fonctionnaires et que du coup, je n'ai pas de compte Amélie et mon numéro de sécu n'est pas reconnu. Voilà.
Merci beaucoup Annabelle. Alors Laura Letourneau, qu'est-ce qu'on lui dit?
Moi aussi je suis fonctionnaire et j'ai un espace santé, donc il y a tout un tas de cas particuliers entre guillemets, mais tout le monde aura bien accès à son espace santé. Si vous avez des difficultés, encore une fois, vous pouvez appeler le support. Mais effectivement, c'est un cas d'usage très marquant. De la même façon, quand son médecin traitant part à la retraite ou quand on change de médecin traitant, quand on a eu une hospitalisation et qu'on n'a pas envie de devoir se rappeler stressé dans sa chambre d'hôpital, quels sont ses antécédents familiaux. Là, il y a tout un tas de cas d'usage clés où on se rend bien compte que le patient va pouvoir être plus acteur de sa santé au-delà de la formule politique un peu galvaudée, quoi.
Alors, beaucoup de questions sur franceinter.fr, aussi sur évidemment la sécurité, on y revient. On nous demande évidemment à quel endroit le serveur des données sera hébergé. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Allez, Arthur Dauphin, je suis sûr que vous vous êtes penché sur la question.
Bien sûr, on s'est intéressé parce que c'est une vraie préoccupation des usagers, et comme on peut le voir avec les questions qu'il y a, ce sera hébergé du coup sur des serveurs en France par des sociétés qui sont Atos et Santéos, donc françaises, on peut le dire. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il y a déjà des craintes en moins. Alors ça ne veut pas dire que le service, il y a zéro faille qui puisse arriver, hein, mais en tout cas déjà, en termes de souveraineté numérique, c'est déjà un très bon point pour le service.
Peut-être pour compléter, c'est hébergé en France sur deux sites, un dans le nord, un dans l'ouest. Les données sont chiffrées, il y a des audits de sécurité externes qui ont été réalisés. Il y a ce qu'on appelle des bug bounty, c'est-à-dire des tentatives d'intrusion dans le système par des hackers bienveillants qui sont en cours de réalisation avec des collectifs militants. On travaille aussi avec l'ANSSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, sur l'ouverture du code source pour que tous ceux qui le souhaitent puissent vérifier par eux-mêmes la façon dont l'outil fonctionne. Il y a une supervision par la CNIL qui a donné son feu vert pour l'ouverture du service. Donc on est vraiment sur les plus hautes normes possibles de sécurité qui existent, évidemment.
Vous rassurez nos auditeurs. Je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table parce que cette émission va bientôt se terminer, pour que vous nous disiez chacun à quelles conditions, a priori, ce sera un succès ou pas, ce qui est le plus important, ce que vous en attendez. Docteur Jacques Battistoni, dites-nous, à votre avis, le plus important pour que ça fonctionne, cette histoire.
Oui, je crois que le plus important, peut-être, c'est que ça soit accessible à tous, d'abord, et que ça serve à tout le monde. Et je voudrais souligner un des défis qu'on a à résoudre en matière de santé, c'est les inégalités sociales de santé, la difficulté qu'on évoquait tout à l'heure pour certaines personnes d'accéder à la fois à des outils comme l'espace numérique de santé, mais aussi à d'autres outils comme la connaissance du système de santé, savoir à qui s'adresser quand on est malade, enfin, toutes choses pour lesquelles le médecin généraliste a un rôle important à jouer, mais où élever le niveau d'information et, je dirais, de culture en santé de la population est extrêmement important. Et il y a deux fonctionnalités à venir de cet espace dont on a peu parlé, mais qui me paraissent tout à fait importantes. Il y a l'agenda qui va permettre à la fois de pouvoir noter ses rendez-vous, noter les rendez-vous qu'on a fait. Et on sait bien que pour quelqu'un qui a une pathologie chronique, c'est très important de respecter un calendrier, de revoir régulièrement, refaire régulièrement certains examens de suivi, voire régulièrement aussi un spécialiste quand il y en a besoin. Toutes choses comme ça qui peuvent être dans l'agenda. Ça permet aussi de programmer des examens de prévention, par exemple. Ça permet également de donner des informations concernant la prévention. Et donc, si cet espace peut être un outil d'information, d'éducation à la santé, je crois qu'il aura vraiment gagné sa raison d'être.
Merci beaucoup, docteur Jacques Battistoni. Allez, il vous reste 10 secondes chacun. Laura Letourneau, si vous aviez un message à faire passer ce soir.
Peut-être que le message, c'est que mon espace santé, c'est pas le projet du gouvernement, c'est pas le projet de l'assurance maladie, c'est vraiment notre projet à tous en tant que citoyens français, et qu'il n'y a qu'une mobilisation collective des citoyens, des associations de patients, des professionnels des hôpitaux, des éditeurs de logiciels qui fera en sorte que ça fonctionne. Il y a une tribune qui a été signée par tous ces représentants qui montre que on est mûr maintenant pour faire en sorte qu'on ait une souveraineté numérique européenne.
C'est fini, allez, Arthur Dauphin, 5 secondes parce qu'il n'y a même plus ça ce soir.
On appelle à une communication large, transparente de la part de tous les acteurs, en tout cas qui sont engagés pour que tous les usagers soient bien au courant de ce qui se passe et que ce soit effectivement une réussite.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu aux questions des auditeurs et merci à ceux qui nous ont appelés.